Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine, qui nous conduit à Verzy, à la rencontre de Sébastien Mouzon. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sébastien.
Bonjour Alexandra.
Merci de me recevoir aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre plus sur le vigneron que tu es. Donc le plus simple pour commencer, c'est de te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites.
Je suis vigneron à Verzy, sur Montagne de Reims, côté nord. J'aime bien insister sur ce côté nord parce qu'on verra au fur et à mesure, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui me semble important, c'est ces expositions. Je suis revenu sur le domaine en 2002 exactement. J'ai fait 6 ans d'études, viticulture, œnologie, en passant par les écoles de Jonge et d'Avize. Ensuite, j'étais travaillé un an en Bourgogne, 6 mois à Pernant-Vergelès, 6 mois à Volnay. Et en revenant sur le domaine, j'ai continué la manière dont travaillait mon père, c'est-à-dire de manière assez traditionnelle. Il n'y a pas encore de travail du sol, enfin, c'était pas du tout dans l'air du temps à ce moment-là. Et on se posait pas toutes ces questions éthiques et écologiques. Donc de 2002 à 2008, j'ai continué à travailler comme faisaient mes parents. Puis en 2008, il y a la crise des subprimes qui me fait prendre conscience de ce problème économique global qui joue sur l'écologie, c'est-à-dire cette surconsommation, etc. Donc je suis passé en biodynamie en 2008, surtout pour des convictions bien plus que politiques qu'autre chose à ce moment-là. Donc voilà un peu pour les grandes lignes.
Et quand tu es arrivé sur le domaine, est-ce que c'était prévu ou au contraire, est-ce que c'était pas forcément désiré?
Alors ça, cette question est toujours compliquée à répondre parce qu'est-ce qu'on devient vigneron, parce qu'on voit des clients passer depuis qu'on est gamin chez les parents et que tout le monde nous dit « Ah, voilà le futur vigneron ». Est-ce que c'est vraiment par conviction? Je crois pas au départ que c'était conviction par passion, c'était juste parce qu'il fallait faire quelque chose de ma vie. Clairement, prendre une direction à 14, 15, 16 piges, prendre une direction de travail, c'est super compliqué, donc c'était peut-être un petit peu par facilité. Et après, j'ai eu une deuxième naissance, en fait, par rapport à la biodynamie, par rapport à ma façon de réfléchir. Clairement, aujourd'hui, je fais plus mon métier par passion qu'autre chose. J'étais pas un grand bosseur à l'école, clairement. J'étais loin d'être le dernier, mais le joyeux luron qui se met au fond de la classe près du radiateur, qui a des notes correctes pour pas redoubler, mais qui fait pas grand-chose. Donc, faire vigneron, c'était beaucoup plus par facilité qu'autre chose à ce moment-là.
Et comment a évolué ta vision du métier de vigneron? Comment est-ce que tu voyais le métier, toi, quand tu avais cet âge-là, et comment tu le perçois aujourd'hui?
Comme tout ce qu'on nous apprend à l'école, je parlais que de croissance, en fait, croissance quantitative. C'est-à-dire, moi, je suis revenu sur le domaine, mon père faisait déjà 90 000 bouteilles, et j'ai absolument voulu racheter tous les raisins de la famille. Donc, je suis passé négociant bien avant les autres pour pouvoir ensuite me rendre compte que je me suis trompé, mais je suis passé avec mon père de 90 000 à 130 000 bouteilles, entre 2002 et 2008, jusqu'à temps que je reprenne une autre voie. Donc j'avais plutôt cette vision d'augmenter les volumes pour faire plus d'argent, etc., etc. Vision assez capitaliste, productive, ce toujours plus. Et en 2008, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la crise économique, là je suis rentré plutôt dans une vision de décroissance. Décroissance quantitative, croissance qualitative, tout en gardant un chiffre d'affaires stable, mais en employant de nouvelles personnes. C'est ça qui est intéressant dans cette vision-là. Enfin, c'est quelque chose qui est clairement possible.
Et quel est ton rapport à l'échec ?
Je pense que tout le monde sait aujourd'hui que c'est grâce aux échecs qu'on avance. Là, cette période-là, c'était plus de l'apprentissage de la vie, quoi. Et on a tous notre petite crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, sûrement. Et là, c'était ma crise de la trentaine. Quand je suis passé en bio, j'avais 28 ans exactement. Donc forcément, il y a une remise en question de quelque chose. Mais après, je pense pas qu'il faille le voir vraiment comme un échec pur et dur. C'est vraiment un apprentissage de la vie.
Et comment s'est passée la transmission entre tes parents et toi? Est-ce qu'ils t'ont plutôt accompagné dans tes choix ou au contraire, est-ce que vous étiez plutôt en opposition?
J'ai bossé, mais vraiment j'ai bossé pour cumuler des informations avant de pouvoir dire à mon père, et surtout à mon père, mais également à ma mère, mais mon père était plus dans la partie. Je crois que la mère, comme toutes les mères, moins dure et plus bienveillante, elle, je savais que ça allait pas être trop difficile à la convaincre. Mon père, c'était pas la même. Du coup, pendant au moins 6 mois, j'ai cumulé toutes les informations possibles, imaginables sur le problème des pesticides sur nos terres et dans les eaux, le problème de ce système libéralisme qui fait que capitaliser des capitaux pour certaines personnes, qui détruisent des tissus économiques et sociaux. Donc j'ai fait un dossier de mon père de tout ça, qui faisait une centaine de pages. Donc il l'a lu, et puis au bout d'un moment, ouais, il n'a pas grand-chose à dire, à part que si on continue dans ce sens-là, on va droit dans le mur, et c'est ce qui se passe encore un petit peu aujourd'hui. Il a seulement répondu, oui, t'as raison, tu peux prendre ces quelques parcelles-là et amuse-toi. Et je lui dis, non, papa, t'as pas compris. Par contre, c'est là, on n'est pas là pour s'amuser, c'est juste, là, aujourd'hui, on passe en bio. Il m'a demandé de faire mes preuves, ce que j'ai fait. Il a quand même l'œil aguerri hein, sur la vigne, il a rapidement vu qu'il y avait quand même des raisins, qu'on faisait l'appellation tous les ans. Que la vigne changeait, mais positivement, qu'elle était de plus en plus élégante, que le sol changeait, qu'on retrouvait un sol grumeleux et pas des autoroutes, c'est-à-dire un sol complètement compact. Et à force de faire les choses bien, après, il m'a laissé les clés du domaine complètement. J'étais beaucoup plus libre et moins embêté, parce que là, je trace un tableau très beau, mais il y a eu forcément des conflits, et des points de vue qui étaient complètement divergents. Mais au bout du compte, aujourd'hui, il est content, il se rend compte que j'ai pas fait de conneries. Mais après, il n'y avait pas que le bio et la biodynamie, parce que je me suis lancé dans l'agroforesterie directement en 2010. Donc j'ai commencé à replanter des arbres à ce moment-là, mais des arbres pas autour des vignes, dans les vignes. Et là, c'était moins drôle. Là, pour le coup, ça le dépassait complètement. Il se rend compte qu'aujourd'hui, on va peut-être pas pouvoir faire sans, et que c'est sûrement la viticulture du futur. Donc voilà, il n'y a pas que le bio, c'était vraiment le global qui faisait que des fois, ça passait pas.
Et à cette période, est-ce que tu as eu des peurs ou des doutes? Est-ce que parfois tu as eu peur de te sentir seul face à ce qui t'attendait?
Non, j'ai pas eu cette peur-là. Par contre, des doutes, j'ai l'impression que c'est toute ma vie. Sans que ça soit un problème psychologique, hein, pas besoin de faire de thérapie pour ça. Mais en tout cas, le doute m'anime, je crois, aussi. J'ai douté quand, les premières fois que j'ai travaillé les sols, il y a des salariés qui se sont barrés. Il y en a qui me disaient clairement que c'était beaucoup trop dur et que c'était n'importe quoi de retravailler les sols, que c'était bien il y a 30 ans, mais qu'aujourd'hui, c'était complètement dépassé. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais le seul à Verzy et aux alentours. Hein. Faut se rappeler que quand j'ai commencé en 2008, il y avait à peine 300 hectares en bio et en conversion bio sur les 33 000. Donc c'était une goutte d'eau dans la mer. Les doutes, les années comme 2012, 2016, 2021, il pleut tous les jours, faut traiter, il faut sortir des chenillards. Enfin, on part vraiment à la guerre quand c'est comme ça, c'est un truc de fou. Où on a peur de perdre ses raisins, on dort mal, on se réveille en pleine nuit pour regarder la météo. Donc oui, il y a toujours des doutes de est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller. Les doutes sur la vinification, au fur et à mesure, j'ai toujours été convaincu que les vins s'en souffrent quand ils étaient bien faits. Enfin, mes plus belles émotions sont sur les vins nature, mes plus mauvaises émotions sont sur les vins nature. C'est un vrai problème. Moi, tout ce qui est brette, souris, etc., c'est pas quelque chose de conservable dans ma manière de voir les vins. Je crois que le premier boulot de tous les viticulteurs, c'est d'avoir des vins propres, dans le sens où quelqu'un qui met 20, 30, 40, 50 euros dans une bouteille, quand il l'ouvre, faut que ça soit bon, parce que sinon, je crois que ça s'appelle du vol. Et en plus, le vin est là pour amener du partage et de la convivialité au sein d'une soirée. Si tu ouvres une quille et qu'elle est pétée, à un moment donné, ça mène pas la même convivialité que si c'est un très gros canon. Donc oui, remise en question, enfin en tout cas doute sur ma manière de vinifier, parce que j'ai toujours vinifié sans soufre, de plus en plus. J'ai commencé avec un fût en 2008 pour arriver sur la totalité aujourd'hui du domaine. Et forcément, il y a des années ça va bien, il y a des années ça va un peu moins bien, il y a des petites montées de volatiles de temps en temps, il y a des choses moins propres de temps en temps. Mais on a la chance en Champagne d'avoir quelque chose qu'appelle la réserve individuelle et on peut se permettre de faire ce genre de choses-là parce qu'on arrive toujours à s'en sortir, j'ai l'impression.
Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé ou inspiré dans cette démarche?
Tout de suite, il y en a trois qui me viennent à l'esprit. Il y a M. Frick en Alsace, où je me suis pris une claque en dégustant ses vins. Donc pareil, lui, beaucoup de vinification sans soufre. Et c'est là que j'ai compris que le soufre abîmait les vins. Le soufre, c'est pas qu'il s'est payé ou pas bien. Des fois, il faut utiliser un petit peu s'il faut sauver des vins. Mais ça n'empêche que le soufre abîme un peu les vins. Donc, Monsieur Frick, grosse claque sur la dégustation. Je suis revenu en Champagne et il y a deux personnes qui m'ont touché. Il y a Benoît Lahaye, que j'ai été rencontré, qui m'a beaucoup appris sur de la technique, sur les purins d'ortie, sur les tisanes et décoctions, sur l'utilisation du cuivre et du soufre. Il y a David Le Clapart, d'une gentillesse incroyable, qui lui m'a plus apporté une philosophie, une vision de bienveillance de manière générale. Puis après, j'ai fait des tonnes de stages pour pouvoir... comprendre vraiment comment ça fonctionne, avec du Ruc Petiot, avec des Bourguignons, du Hérody, du Massenot, bien sûr, le pape de la biodynamie, Monsieur Masson, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de stages. Puis après, on apprend sur le terrain, on regarde.
Et la dimension sociale est importante pour toi? Quelle place elle occupe dans ton quotidien de vigneron?
Elle est essentielle. Déjà, la dimension sociale est importante, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, moi, c'est plus une prise de conscience économique qui m'a fait évoluer vers la biodynamie. Avant d'être convaincu d'être viticulteur, j'ai porté la misère du monde pendant 2-3 ans, parce que quand on apprend ça à peine 30 ans, on a envie de tout changer. J'ai cru comprendre que le système économique amenait des gros problèmes dans tous les sens du terme. Et les personnes de 40, 50, 60 ans, je voyais qu'ils bougeaient pas, qu'ils comprenaient pas ce que je disais, qu'on parlait pas la même langue. Du coup, j'ai voulu changer le monde pendant quelques années, ça n'a pas marché. Puis je crois que c'est pas possible seul. Le fait de vouloir convaincre les gens, ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut juste être gentil, bienveillant, souriant. Et si t'es heureux, les gens ont envie d'être comme toi, donc copie un petit peu ta façon de faire. Et donc avant de revenir complètement sur le domaine, convaincu que je voulais être vigneron, je suis parti en Afrique, tellement la claque était grosse de ces problèmes économiques. 80% des richesses sont consommées par 20% des personnes, et 20% c'est les occidentaux, donc faut remettre en question toutes ces choses-là. Donc j'ai bossé avec l'association de Pierre Rabhi, j'ai fait 2 fois un mois au Sénégal à Ndiémane pour faire de l'agroécologie. Comme j'étais déjà parti sur la biodynamique, j'avais accumulé un peu d'expérience. J'étais surtout là-haut pour faire des essais avec eux de tisane, de purin, d'essayer de travailler avec la lune pour essayer d'avoir des productions plus correctes. Fort de ces expériences, de ces 2 ans et d'avoir vécu en plein milieu du village avec eux, j'étais le seul petit blanc. Hein. Du coup, c'était super intéressant culturellement parlant et philosophiquement parlant. Et je me suis rendu compte, mine de rien, black, blanc, beurre, on veut tous la même chose. On veut assurer ses arrières. Et plus on en a et plus on en veut, parce qu'on veut toujours assurer plus, plus, plus. Et la peur nous dirige et c'est un réel problème. Donc je suis revenu sur le domaine en disant, bah de toute façon tu changeras pas le monde, tout le monde est pareil, donc quitte à faire quelque chose, sois heureux. Et a priori, je suis heureux en faisant du vin, donc je me suis dit, autant faire le vin avec le moins de produits chimiques pour amener le plus de bonheur possible à moi et aussi aux personnes.
Et comment tu te sens par rapport à ton équipe? Est-ce que c'est simple pour toi de l'accompagner au quotidien?
Ah non, mais c'est génial aujourd'hui. Je prends un pied fou, je me réveille tous les jours en étant content d'aller voir les personnes avec qui je travaille. Et a priori, eux c'est pareil. Toujours bienveillance, je ne vais pas les fliquer, je leur fais confiance. Si à un moment donné ils vont moins vite, c'est qu'ils sont fatigués, donc il faut respecter ça aussi. Il y a une vraie ouverture de parole, c'est-à-dire s'il y a des choses qui ne vont pas, on dit ce qui ne va pas. Et humainement parlant, je trouve que c'est vraiment une belle aventure pour tout le monde aujourd'hui.
Et tu parles de bio et de biodynamie, mais quelle définition tu fais toi aujourd'hui de la biodynamie et comment elle a évolué au fil des années depuis que tu as commencé?
J'ai l'impression que chaque vigneron qui fait de la biodynamie aurait sa propre définition. Donc la définition globale, je pourrais pas en donner une, à part redonner la vie, guérir, enfin guérir le sol, guérir la vigne. Moi, je vois l'approche de la biodynamie comme quelque chose de très profond. J'utilise beaucoup le mot bienveillant, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'être dans l'écoute de la nature, des hommes, d'être dans l'équilibre. D'un point de vue technique, alors là, ça va paraître un peu plus farfelu peut-être, hein, mais il y a une émission il y a quelques années qui est passée sur Arte, qui s'appelait « On a retrouvé la mémoire de l'eau ». C'était un reportage sur le professeur Montagnier. Donc le mec, c'est un prix Nobel, c'est une sacrée pointure. Il travaille justement sur les dynamisations et sur l'eau. Est-ce que l'eau a une mémoire ou pas? Alors qu'est-ce que c'est dire l'eau une mémoire? C'est pour ça que j'utilisais le mot farfelu tout à l'heure. Mais il expliquait qu'on analyse au plus petit micron tout ce qui vit, une plante, un homme, un animal. Tout électrique en fait, tout est fait de neutrons, de protons, etc. etc. Tout vibre, donc tout est vibration, tout électrique. Et justement cette électricité-là, cette vibration-là, on peut la retransmettre aux autres, aux plantes, aux animaux. Quelqu'un qui est joyeux n'a pas la même vibration que quelqu'un qui fait la gueule et n'a pas le même aura sûrement et n'a pas le même impact sur son entourage. Donc je travaille toujours dans ce sens-là en ayant des pensées positives pour essayer de dégager quelque chose de plus positif possible et que le boulot à la fin, tout ce qui est raisin, vigne, vin, puisse ressentir ces choses qui sont bonnes. En tout cas j'ai cette croyance-là, ça m'anime de penser qu'on peut agir de cette manière-là.
Et quels sont les meilleurs conseils qu'on ait pu te donner?
Je crois que c'est plus des conseils personnels que je peux recevoir, surtout de ma compagne. Soit un peu moins strict, soit un peu moins rigoureux. J'essaye de pas trop prévoir les choses de l'avenir, etc. Mais en fait, je suis tout le temps en train de faire ça. Je suis assez anxieux de la défaite, de pas réussir. J'ai peur des fois, à force d'être toujours sur le fil par rapport au vin, les sans souffle. Toujours peur de me casser la gueule. Toujours peur des jugements. Du coup, ouais, c'est juste lâche un peu de lest et à moins peur du jugement des autres.
Et ça prend beaucoup de place, ça, dans ce que tu fais, le regard des autres?
C'est important. Je me réveille pas le matin en me disant qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais par contre, sur certaines choses, des fois, quand je suis pas... Par exemple, j'aime pas trop le conflit, mais je peux pas m'empêcher d'y aller dans les conflits quand il y a quelque chose que je suis pas du tout d'accord. Donc forcément, des fois, ça frite un peu, et c'est dans ces périodes-là où après, je dis mais pourquoi tu dis tout ça? Pourquoi tu te bats en permanence? Pourquoi tes convictions sont plus fortes que le reste? Et là arrive ce problème de jugement et du coup les nuits peuvent être un peu plus longues.
Quel regard tu portes toi sur l'évolution de la Champagne?
Je crois que la Champagne est un peu le reflet de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ça se divise en deux. Mine de rien, depuis une grosse dizaine d'années, Faudra vérifier les chiffres. Mais il me semble que les vignerons et les coopératives ont baissé au moins de 15 ou 20 millions de bouteilles en vente. Alors que tous les importateurs voient a priori des nouvelles stars en permanence naître en Champagne, etc. C'est vrai, ça c'est une vraie chance, parce qu'il y a un vrai dynamisme. Je pense que la Champagne fait partie des régions les plus dynamiques de France. Il y a des jeunes vignerons qui font des très 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 belles choses de terroir aujourd'hui qu'on voyait pas avant. Mais ça n'empêche que les vignerons qui arrêtent de vinifier, qui faisaient 100 000 bouteilles, 50, 60, 70 000 bouteilles, et qui ont divisé par deux, c'est pas les jeunes vignerons qui font 2, 3, 4, 5 000 bouteilles qui vont remplacer cette perte-là. Donc je pense qu'on peut vite rentrer dans un déséquilibre. Il y a toujours un équilibre négoce, récoltant, coopérative par rapport aux surfaces de vignes et aux ventes. Et je pense qu'on peut arriver beaucoup plus facilement sur un déséquilibre aujourd'hui qu'hier.
Et est-ce que tu penses que tu resteras vigneron jusqu'à la fin de ta carrière ?
Ouais, je crois, ouais. Si j'ai pas été vigneron, j'aurais continué à bosser avec l'association de Pierre Rabhi, j'aurais bossé dans l'humanitaire, c'est quelque chose qui m'avait énormément plu. Mais là, aujourd'hui, je suis tellement bien dans ce que je fais. Je comprenais pas quand j'étais gamin que mon père, il travaillait au tendeur, et voir tous les anciens vignerons en retraite qui continuent à bosser, je dis, mais les mecs, ils ont que ça à foutre, quoi. Ils peuvent pas partir en vacances, ils sont en retraite. En fait, je me dis qu'aujourd'hui, je serais peut-être partie de ceux qui arriveront pas à arrêter de bosser, qui mettront toujours leur petit grain de sel à ceux qui apprennent le domaine, donc faut que je fasse attention à ça.
Et l'humanitaire n'a pas de sens que dans sa finalité, finalement, dans l'action qui est menée. Il y a aussi beaucoup de sens dans les rencontres et la capacité que les hommes ont à s'unir autour d'un projet commun. Donc ça me fait écho à la dynamique de groupe, forcément, et au collectif. Tu fais partie, toi, depuis les débuts de l'association Des Pieds et des Vins. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, à la fois à titre personnel et professionnel ?
Mais Des Pieds et des Vins, c'est juste une association incroyable. Il y a une belle palette de jeunes vignerons qui aujourd'hui ont cassé les codes, cassent encore les codes et font vraiment très bon. On peut parler technique, c'est très décomplexé. Il n'y a aucun tabou entre nous, on n'est pas en mode starification dans notre groupe. Un peu le problème de notre métier aujourd'hui, la starification des vignerons leur fait perdre complètement les pieds. Et on arrive avec des mecs qui prennent le melon incroyable, alors que c'est pas ce qu'on a aujourd'hui dans notre groupe. Ça, je kiffe cette ambiance-là. Puis quand je dis décomplexé, c'est qu'on rigole vraiment. On aime se retrouver, et ça c'est cool, ça permet de pas se sentir seul de temps en temps.
Et tu parles de ceux qui cassent les codes, est-ce que toi tu te sens suffisamment audacieux dans ton métier de vigneron ?
Mine de rien, aujourd'hui j'ai plus de 1000 arbres de plantés sur l'ensemble de mes vignes, j'approche les 800 pieds de thym, d'origan, sarriette. L'été je remets des courges, des pommes de terre, des tomates, enfin j'aime cette idée de jardin et de casser la monoculture. Donc il y a quelque chose de l'ordre avant-gardiste quand même, je pense. 2015, j'ai mis des moutons dans les vignes. 2016, j'ai mis des poules. Pareil, je pense que j'étais le premier ou l'un des premiers. Donc, il y a quelque chose, oui, de cet ordre-là, de l'audace. J'aime cette idée de faire avancer les choses, en fait. D'être moteur sur certains points.
Et avant de conclure, aujourd'hui, il n'existe pas de réelle définition, on va dire claire, officielle, de ce que peut être un vin nature. Est-ce que toi, tu en fais une définition ?
Je veux pas de définition non plus, parce que j'ai des amis qui sont très extrêmes, qui eux, à vin nature, c'est pas un peu de soufre, aucun apport dans le vin, aucune filtration, aucun collage, aucun apport qui soit chimique ou autre dans le vin. Je suis assez d'accord là-dessus. Moi aujourd'hui, tous mes vins sont en dessous de 15 mg total. Je peux réutiliser quelques grammes de soufre sur certains fûts qui partent en vrille pour pouvoir les redresser. Mais il y a des années comme 2019, il n'y a pas eu un poil de soufre sur mes vins. L'année dernière, en 2022, qui est une année plus oxydative, j'ai dû ressouffrer 10% de mes fûts. Donc sur le papier, c'est rien. Donc je me considère quand même une personne qui fait des vins nature, puisque mine de rien, je suis en dessous de 15 mg et il y a très 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 peu de soufre utilisé. Mais est-ce que j'ai le droit de me dire que je suis nature alors que j'ai des potes qui n'en utilisent pas du tout et qui sont encore plus sur le fil ? Je sais pas. En tout cas, la base, c'est d'avoir des vignes en bio. Parce qu'il y a des gens qui font des vins sans soufre, qui se disent nature, alors que leurs vignes sont traitées chimiquement. Donc ça, pour moi, c'est hors de question d'imaginer des vins nature comme ça. Donc la base, une vigne bien travaillée, sans produits chimiques. Et après, pas du tout de soufre, ou vraiment très très peu, mais que ce soit pas perceptible, quoi.
Et le mot de la fin, donc, sera le tien. Avec le recul que tu as aujourd'hui, si tu pouvais t'adresser au jeune Sébastien, de 14 ans, qui démarrait ses études, qu'est-ce que tu lui dirais ?
N'aie pas peur, ça va aller.
Merci beaucoup pour ton temps Sébastien, j'étais ravie de venir à ta rencontre aujourd'hui. Je te souhaite évidemment une bonne continuation dans l'ensemble de tes projets.
Merci Alexandra.
À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com. mais également sur le compte Instagram du podcast @winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite.